Merci d'être venu et là je vais essayer donc de prendre la suite un peu, mais cette fois sur l'histoire culturelle. Et c'est un petit peu différent, bon, de beaucoup de manières, mais une des manières que c'est différent, c'est que quand on regarde le programme cinéma du mois, on voit plusieurs films où on se dit, bon, ça c'est, traite de l'histoire. La mort de Staline, Suffragette, tout. Ce qui est moins le cas avec la géographie. Alors je pense que il y a de la géographie, mais les gens ne sont pas au courant. Tandis que les gens savent qu'il y a de l'histoire dedans. Et alors, quelque part, je pense que les historiens, on est poussés actuellement à revoir qu'est-ce que c'est que l'histoire, comment ça tombe dans la tête des gens. Alors, qu'est-ce que je vais faire donc comme structure? Je vais commencer donc par des grandes questions, mais ce sont des grandes questions. Je pense, c'est pas tellement que j'ai la réponse définitive, mais je pense que c'est des questions qu'on ne devrait pas arrêter de poser, parce qu'avec chaque génération, avec chaque décennie, ça ouvre de nouvelles possibilités. Donc, le premier, c'est pourquoi l'histoire et pourquoi l'histoire culturelle. Ensuite, du point de vue historiographique, je vais regarder pourquoi et comment la montée de l'histoire culturelle, des origines jusqu'à nos jours, mais quand même avec une concentration sur la domination de l'histoire culturelle à partir des années 80. Je vais me concentrer sur l'historiographie britannique et française, avec quelques exemples des États-Unis. Ensuite, je passerai à l'histoire culturelle à l'université aujourd'hui. Encore une fois, je regarderai le Royaume-Uni et la France. Et on verra que la position de l'histoire culturelle dans les universités n'est pas la même que la position de l'histoire culturelle dans les librairies, ni dans les manuels scolaires, ni à la télévision. Parce que tous ces endroits sont des endroits où les gens ils reçoivent de l'histoire. Et pourtant, c'est très différent. Alors, quelque part, je pousse pour une conception de l'histoire très large qui n'est pas quelque chose que les universitaires font aux universitaires, malgré de temps en temps cette impression. Un petit parenthèse sur histoire culturelle et mémoire, et puis pour finir en parlant de moi, qui est un de mes passe-temps préférés, c'est quelle différence tout cela fait pour un historien de la musique populaire, et particulièrement comme exemple la description épaisse, j'en parlerai, et chanter la première guerre, hein, parce que ma spécialité c'est l'histoire de la musique populaire, et là je suis en train de finir donc deuxième livre sur la chanson populaire dans la Première Guerre mondiale qui s'appelle Popular Song in the First World War, An International Perspective. Je peux traduire plus tard pour si nécessaire. Voilà, donc première question, donc pourquoi l'histoire et pourquoi l'histoire culturelle? On ne se pose jamais suffisamment la question. J'entends dire, comme tout le monde, que la raison que nous étudions l'histoire, c'est pour que l'humanité ne fasse pas les mêmes erreurs que dans le passé. En regardant l'état du monde, je ne sais pas si on peut dire que ça a été un franc succès. Personnellement, moi je pense que l'étude et la diffusion des connaissances historiques répondent avant tout un besoin de se situer, de sentir le lien avec nos ancêtres et aussi de comprendre les évolutions qui ont produit nos vies et notre monde. Tout comme nous aimons, en étudiant l'astronomie, les galaxies, Hubble et tout ça, nous aimons bien comprendre l'origine. Je dirais plus que comprendre, c'est vraiment ressentir ce lien. Alors, c'était mon idée sur pourquoi l'histoire, mais j'ai allumé la télévision pour voir si on pouvait m'éclairer. Et je suis tombé sur la chaîne Toute l'Histoire. Il y a deux chaînes en France pour grand public pour l'histoire. Il y a l'Histoire et Toute l'Histoire. Toute l'Histoire, déjà tout un programme. Toute l'Histoire, c'est le moins universitaire des deux chaînes Histoire que je peux recevoir chez moi. Je ne sais pas si vous le lisez chaque fois facilement là, mais je l'ai mis en bas. Le devise, chaque fois qu'on allume la chaîne, toute l'histoire pour ne rien oublier. Alors c'est effectivement, bien sûr, il y a un élément comique, je me moque un peu. Cela dit, je pense que c'est une vraie aspiration des gens de ne pas perdre, de se souvenir au maximum, et ça donne à réfléchir bien sûr sur les liens entre histoire, mémoire et commémoration. Nous y viendrons. Mais si ça c'était un peu la question de pourquoi l'histoire, la question du jour, c'est plutôt pourquoi et comment l'histoire culturelle. Alors je suis allé tout récemment, j'ai eu la chance d'aller à Washington et de visiter la toute nouvelle, le tout nouveau musée qui est le musée de l'histoire africain-américain, un musée qui a été ouvert en 2016 après un long travail de 40 ans de bataille politique pour que ce soit construit, pour trouver l'argent, et puis aussi pour qu'il soit placé, mais vraiment en plein centre de Washington, en face du monument, c'est valorisé, on ne peut plus quelque part. Alors j'ai voulu voir quelle était la place de la culture et de l'histoire culturelle à l'intérieur de ce musée qui a quand même marqué la conception historique des Américains. Et alors j'ai ici donc le map, le plan qui vous est donné, et comme vous voyez, vous avez le droit à trois étages d'exposition historique, trois étages de galerie d'histoire, un étage patrimoine, un étage communauté et un étage culture. Et donc on voit que finalement la culture est séparée, c'est pas vraiment de l'histoire, c'est ailleurs. Et entre autres choses, quand on va dans la section culture, on trouve, c'est un musée absolument énorme et magnifique, mais par exemple ces deux éléments-là, on les trouve dans la section culture, et pas dans la section histoire. Vous avez là à gauche une publicité pour une organisation religieuse qui fabriquait des poupées noires à une époque où il n'y avait pas de poupées noires, et parce que le blond, c'était le seul modèle qui était acceptable. Alors un mouvement religieux antiraciste fabriquait des poupées noires. Ça semble un objet de l'histoire évident et fascinant. Et de l'autre côté, vous reconnaissez la statue des Jeux olympiques de 68, où les athlètes qui ont levé le poing en hommage au mouvement noir aux États-Unis. Mais là, voilà, on était sortis de la section histoire, et on avait une section culture. Ce n'est pas tout à fait clair pourquoi ni comment. Alors si nous quittons le musée et nous passons aux historiens et l'histoire culturelle, comme je l'expliquerai, l'histoire culturelle existe depuis longtemps, mais a connu une extension sans précédent ces 50 dernières années. Mais le débat continue quant à sa définition précise, un débat qui n'est pas prêt de se terminer. Alors, l'histoire culturelle, c'est peut-être surtout défini en opposition à deux autres types d'histoire très influentes, l'histoire politique et l'histoire sociale. Cependant, il a eu davantage de difficultés à se définir. Je vous montrerai tout à l'heure une série de livres publiés récemment en anglais sur le titre général « Qu'est-ce que l'histoire ?». Il y a toute une série « Qu'est-ce que l'histoire intellectuelle ?»« Qu'est-ce que l'histoire urbaine ?». Et dans la série, il n'y a pas « Qu'est-ce que l'histoire politique ?». Et il n'y a pas « Qu'est-ce que l'histoire sociale ?» Il faut croire que ça allait de soi, il n'y avait pas besoin de... Ce sont des petits livres de 100 pages, il n'y avait pas besoin de l'expliquer, ça allait de soi. L'histoire sociale, contrairement à l'histoire culturelle, apparaît dans les dictionnaires. Voyons ici le Oxford Dictionary, l'histoire de la société ou du comportement social, histoire qui met l'accent sur les structures sociales. Origine au 19e siècle. Donc là, le social history, ça semble assez établi comme définition. Mais le rôle et l'importance de l'histoire sociale n'est pas toujours allé de soi. Nous voyons ici un numéro de la revue History Today, publié dans les années 80. Une citation, en tout cas. Qu'est-ce que l'histoire sociale ? Une nouvelle forme d'antiquarianisme ? Une manière de célébrer l'expérience au détriment de l'analyse ? Le genre d'histoire que les gauchistes écrivent ? Une tentative de sauver le passé face à la condescendance de la part des générations suivantes ? C'est une citation d'un grand historien, E.P. Thompson. Une manière de susciter l'enthousiasme populaire ? Donc ça, c'est les propositions, donc même dans les années 80, donc... Quand l'histoire sociale avait gagné, c'est qu'est-ce qu'on gagne ? Exactement, voilà. Et vous voyez que la question était encore ouverte sur qu'est-ce que c'est que l'histoire sociale, ou même quelque part où se trouvait sa légitimité. La situation pour l'histoire culturelle, c'est quelque part encore pire parce qu'il n'est pas dans les dictionnaires. Même il y a aujourd'hui des gens qui disent que finalement, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est pas simplement que tout le monde dit qu'ils font de l'histoire culturelle? Alors on va essayer de voir si on trouve quand même quelques régularités là-dedans. Le début le grand-père de l'histoire culturelle, on dit, c'est l'historien suisse, c'est Jacob Burckhardt. Il est à peu près, il a peu de choses près, le premier à s'éloigner de l'idée que l'histoire c'est la politique du passé et la politique ce n'est que l'actualité de l'histoire. Donc, il s'éloigne de cela avec son livre qui est devenu célèbre en 1860, La civilisation de la Renaissance en Italie. Et son travail, il faut le dire, lui valait le mépris de l'historien le plus influent de l'époque, Leopold von Ranke. Leopold von Ranke, c'est un peu le fondateur de l'utilisation moderne des sources dans les écrits historiques, un travail d'un sérieux qu'il ne connaissait pas avant, qu'il n'existait pas avant. Mais Burckhardt, on se moquait de lui parce que il introduisait la civilisation de la Renaissance, alors il étudiait à la fois les lois, mais aussi les peintures. C'était très très osé à l'époque. Je saute quelques décennies, une génération, et on trouve les suivants plus influents. Un livre de 1919 de Huizinga, un Hollandais. Ce livre qui a été traduit plusieurs fois sous différents titres, mais l'automne du Moyen-Âge, c'est le plus récent. Et il a comme sous-titre une étude des formes de la vie, de la pensée et de l'art. Donc on voit bien qu'il y a une tentative d'avoir une conception assez large de qu'est-ce que c'est l'histoire. Et en Angleterre, l'ouvrage de Young de 1936, Victorian England Portrait of an Age, donc un portrait, on s'éloigne d'une vision d'une avancée inévitable positiviste. Et dans portrait, on a aussi l'idée, je crois, de la subtilité et la subjectivité du processus de ce que fait l'historien. Parce que l'historien, pour faire une petite parenthèse, l'historien a deux travaux à faire. La première, c'est de trouver des vérités sur le passé. Le deuxième, c'est de les communiquer. Et parfois, on a l'un sans l'autre, mais l'imbrication des deux peut donner des choses assez intéressantes. Au XXe siècle, le reste du XXe siècle, il y a l'arrivée de trois des pères, si vous voulez, de l'histoire culturelle. En allant vite, mais bon, je ne peux pas citer des dizaines, ce ne serait pas intéressant. Il y a un français dans le lot, bien sûr, le livre de Marc Bloch de 24. Il analyse sur une longue période les croyances des élites et du peuple concernant les pouvoirs magiques des rois. Donc sur une longue période, donc on est vraiment dans l'histoire des représentations et des croyances. Mais c'est sans surprise que c'est pendant les Trente Glorieuses, comme on ne dit pas en anglais, on dit en anglais le boom d'après-guerre, que l'histoire culturelle va prendre son envol. Il y a des raisons très simples pour cela. Le tout premier, le plus important, c'est que c'est tout simplement une question de nombre. Des dizaines de nouvelles universités s'ouvrent avec des centaines de nouveaux historiens. Le nombre d'historiens en 1970 est sans commune mesure avec aucune génération précédente. Alors le nombre de, la richesse de l'étude historique se multiplie automatiquement. De plus, l'université servant pendant une courte période d'ascenseur social, enfin, il peut encore servir d'ascenseur social, mais pas forcément vers le haut, ce ne sont pas, dans cette période, pour la première fois, ce ne sont pas des enfants de l'élite qui deviennent historiens, ou pas seulement. Et alors ici, nous avons deux autres classiques des années des 30 Glorieuses en Angleterre. Tout d'abord, le livre, 800 pages quand même, de E.P. Thompson, la formation de la classe ouvrière anglaise. C'est un livre marxiste qui revendique une philosophie matérialiste dans laquelle on commence l'analyse par un regard des conditions matérielles de propriété et d'exploitation. C'est un livre qui trace de 1780 à 1830, dans la première révolution industrielle, avec des canaux mais pas de trains. C'est ça la première révolution, des canaux et des banques mais pas de trains, et peu d'usines. Il trace la conscience de classe des artisans, et les idéologies et les organisations qui ont cristallisé cette conscience de classe. C'est un livre qui remet le petit peuple au centre de l'histoire et un livre qui a eu une influence majeure dans toute une série de pays sur les historiens de l'esclavage aux États-Unis notamment. C'est aussi, en même temps, un ouvrage extrêmement sévère contre toute tentation de réductionnisme économique. Et il passe beaucoup de temps à expliquer le rôle de la religion populaire. Par exemple, pendant 25 ans, Thompson s'insurgeait contre deux tendances chez les historiens marxisants. Tout d'abord, une tendance stalinienne qui avait tendance qui souvent réduisait l'histoire à l'évolution économique. Et deuxièmement, Thompson combattait un courant althusserien qui tendait, selon Thompson, à dissoudre dans une abstraction conceptuelle la vie réelle et l'action réelle des travailleurs. Donc ça, c'est Thompson et comment il pose à la fois donc un matérialisme et un intérêt pour les configurations culturelles, religion populaire, etc. À droite, vous voyez un livre qui est nettement moins connu en anglais, en français, qui n'a pas été traduit, ce qui est un peu tragique, « La religion et le déclin de la magie ». C'est un livre merveilleux de 71. Il a commencé en 59, je crois. Il a pris 12 ans pour l'écrire, simplement parce qu'il était long. Hein. Mais il parle très lentement aussi quand il fait des conférences. C'est fabuleux. Sa quatrième de couverture explique la perspective. Pour un homme ou une femme anglaise en 1500, la sorcellerie, les mauvais esprits et les sorts jetés constituaient une partie importante de la vie quotidienne. Mais en 1700, ces croyances étaient infiniment plus rares. Pourquoi ? Et Thompson démontre que la pensée magique avait traditionnellement aidé les gens à comprendre et à gérer les problèmes quotidiens. Mais l'émergence d'un protestantisme rationaliste et les avancées de la science ont miné le pouvoir de la magie. Donc, dans tout cela, nous voyons certaines des priorités qui seront caractéristiques de l'histoire culturelle. L'importance de la vie symbolique et des représentations que font les gens du monde qui les entoure. Parce que si nous n'avons pas une définition de l'histoire culturelle, nous avons une série de priorités qui le caractérisent. Mais c'est à partir des années 80 que l'histoire culturelle, surtout dans les pays anglophones, commencera à dominer les universités. Notez bien qu'il ne dominera ni les librairies, où l'histoire militaire règne en chef, ni les manuels scolaires, où c'est l'histoire politique qui continue à dominer. Je viens de regarder la semaine dernière le manuel d'histoire de ma fille, qui est en terminale S, et c'est une domination sans partage de l'histoire politique, de ce qu'ont fait les rois, et puis plus tard les lois, et éventuellement les mouvements sociaux, mais en tant que créateur de changements dans les lois. Voici ma petite liste donc, des caractéristiques de l'histoire culturelle. Elle utilise une définition très large de la culture. Donc ça peut comprendre les jeux de récré des enfants, ça peut comprendre la musique populaire, la polygamie ou la polyandrie, etc. Elle constitue, quand elle prend son envol, elle constitue une mise à distance d'approches précédentes à l'histoire de la culture, notamment l'histoire de l'art et l'histoire des idées. En général, le plus souvent, l'histoire de l'art comme approche s'est concentré sur les influences d'un artiste sur un autre artiste, ou sur l'histoire du développement technique de la peinture, de la musique, des instruments de musique, etc. Et elle a traditionnellement utilisé peu une approche anthropologique. Donc ça, c'est un peu le... Quand je lis dans mon domaine, quand je lis des histoires de la musique, c'est comment X a influencé Y et comment la forme de la symphonie, la forme du sonate, etc. L'histoire des idées, le plus souvent, a adopté une méthode similaire avec les textes. Alors, il y a peut-être des historiens d'idées dans la salle, mais je me risque à le dire quand même, que ça peut souvent être, voici un texte de Voltaire, qu'est-ce qu'il a pris de Montesquieu, ou quelle est la filiation de tel ou tel concept sur une série de textes. Donc c'est de là, l'histoire culturelle n'a pas voulu se concentrer sur les dynamiques internes des textes et des milieux de production. Elle a fait apparaître une focalisation sur ce qui est mesurable. Elle était obligée de tenter d'éviter une approche journalistique à l'histoire, parce que quand on voit très très souvent, on ouvre les journaux à n'importe quelle époque et on va voir, voilà, 68, vous lisez les hebdomadaires aujourd'hui qui vont définir le zeitgeist des années 60, mais parfois d'une manière où on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est très très difficile à dire bon, sur quoi on se base. Dernière deux caractéristiques, donc, s'intéresse énormément au rôle du symbolique dans la société, et en termes généraux, constitue une histoire par en bas, c'est-à-dire donne de l'importance à la vie ordinaire des gens ordinaires. L'histoire culturelle, dans ce sens-là, prolonge et continue l'approche de l'histoire sociale qui s'élevait contre l'histoire des grands hommes ou le roman national, en soulignant l'importance des gens ordinaires. Mais l'histoire culturelle participe également à un compromis intellectuel au sein des universités. C'est une période après 68 où l'influence du marxisme dans les universités entre en déclin radical. Et l'approche de l'histoire culturelle permettait à certains historiens de continuer de s'intéresser au peuple sans se sentir obligé de se déclarer marxiste. Et cela en partie parce que le marxisme universitaire, dans les départements d'histoire en tout cas, avait été identifié avec une version spécifique du marxisme qui impliquait un soutien aux dictatures du bloc de l'Est qui, ayant perdu d'abord le soutien éthique dans le monde intellectuel occidental pour la plupart, après se sont effondrés aussi économiquement, alors pouvaient difficilement servir de modèle. Les points forts, pour moi les points forts là-dedans, c'est une focalisation sur l'expérience vécue. Et aussi, et ça me rappelle un peu ce qu'a dit Odette sur la géographie culturelle, l'histoire culturelle contribue à un élargissement considérable du public des travaux historiques. Ceci est sans doute en partie un accident historique, l'élargissement de l'accès aux études supérieures, la démultiplication du nombre de musées, le développement d'abord de la télévision par câble et des chaînes spécialisées histoire, donner tous un public plus grand à l'histoire. Il y a d'autres raisons aussi, j'en parlerai dans un instant. Pour ce qui est des chaînes spécialisées histoire, History Channel est fondé aux États-Unis en 1995. Actuellement, 100 millions d'Américains peuvent la reçoivent. En France, nous avons chaîne Histoire de TF1, fondée en 1997, et chaîne Toute l'Histoire, fondée l'année précédente. Un autre point fort, peut-être le plus fort, c'est que l'histoire culturelle participe à un élargissement impressionnant de l'objet de l'histoire. Mon domaine, c'est la Première Guerre mondiale. Nous avons vu apparaître des livres d'histoire sur la nourriture, les monuments, les lettres à la presse, les lettres aux parents, les rapports entre camarades dans les tranchées, la chanson populaire, etc. Dernière caractéristique, donc, dernier point fort de l'histoire culturelle, c'est qu'elle revendique une interdisciplinarité certaine. Après, c'est une caractéristique qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes parce que on met interdisciplinarité à chaque fois qu'il y a un appel d'offres parce que c'est un mot qu'on doit mettre. Mais quand on regarde, la présence réelle n'est pas toujours évidente. C'est avant tout dans l'anthropologie et dans la critique littéraire et la sémiotique que l'histoire culturelle est vraiment allée chercher des méthodes qu'ils ont utilisées plutôt que simplement des références pas trop approfondies. Le livre de critique littéraire de Paul Fussell, The Great War and Modern Memory, La Grande Guerre et la Mémoire Moderne, La Mémoire Moderne, est même considéré parfois le livre clé de la renaissance de l'histoire culturelle. Alors, tout cet intérêt pour la vie symbolique et le sens interne de la vie des gens ordinaires dans le passé s'est développé en même temps qu'une évolution de la consommation de l'histoire en dehors de l'université qui est complexe et grandissante. Un des éléments présents de ces dernières années a été une demande soutenue et massive pour de la fiction historique plus fouillée que précédemment, et c'est bien sûr Ken Follett, qui est le représentant le plus connu avec cette série de, il y en a quatre, je pense qu'il y en a huit en tout, quelque chose comme ça. Le tout dernier, c'est une colonne de feu au sujet de la Renaissance. Si vous ne les connaissez pas, j'étais très intéressé de lire La Chute des Géants. Parce que moi, je suis spécialiste de la Première Guerre mondiale, j'ai lu 250 livres sur la Première Guerre mondiale, alors je me sentais bien pour juger de la véracité historique. C'est extrêmement bien fait. Il faut dire, bien sûr, qu'il a une équipe de chercheurs pour l'aider. Hein. Mais au moins, il a l'idée d'embaucher une équipe de chercheurs. Il n'y a pas seulement dans le roman, et ce sont des best-sellers de 500 pages. Alors, c'est vraiment un intérêt populaire. L'autre exemple que je connais plus en Angleterre, c'est la montée des séries télévisées de un peu télé-réalité historique. Alors, j'hésite à dire télé-réalité parce que ça a très mauvaise réputation, la télé-réalité. Et souvent, les gens citent que les exemples les moins intéressants, peut-être. Un très grand nombre des séries de la BBC a fait le pari d'essayer de faire vivre des gens d'aujourd'hui dans des situations du passé. Parfois, il s'agit des membres du public, comme le 1900 House, où ils ont tout simplement pris une famille de 2000, et leur ont fait vivre pendant 4 mois dans une maison avec la technologie et le divertissement et la lumière et les vêtements, etc., il y a un siècle. C'était fascinant. Ils ont choisi de leur faire vivre la vie de la classe moyenne de 1900, parce que le faire vivre la vie de la classe ouvrière de 1900 aurait été illégal. Ça aurait été comme de la torture, je crois. Ils l'ont vraiment expliqué comme ça. Très intéressant, The 1940 House, et là toute une série d'autres. Dans le tout dernier, l'année dernière, c'était celui-ci, Back in Time for Brixton, où ils ont pris une famille noire et ils leur ont fait vivre chaque semaine une décennie de la communauté noire britannique depuis les années 50. Donc ils ont vécu une semaine dans les années 50, une semaine dans les années 60, une semaine. Donc voilà, un peu. Parfois il s'agit de membres du public et parfois il s'agit d'historiens photogéniques. Alors c'est pour ça que j'y suis pas. Donc Edwardian Farm et Victorian Pharmacy. Des séries extrêmement intéressantes qu'on peut trouver sur YouTube d'ailleurs. Mais je pense que ce sont des séries qui soulignent l'expérience quotidienne des individus de l'époque. Et je pense que c'est un intérêt qui va en parallèle avec celui de la nouvelle histoire culturelle. Même si, bien sûr, ça souligne aussi à quel point on ne peut pas s'imaginer comme étaient les gens d'un siècle ou deux siècles. En dehors de l'université, il y a aussi la montée très rapide, aidée par l'Internet, de la généalogie familiale. Il y a 25 ans, quand les Américains s'y intéressaient beaucoup, et les Anglais commençaient à s'y intéresser, j'en parlais en cours avec les élèves, et ils s'en foutaient, ces Américains, quoi. Ça n'avait aucun écho. Ce n'est plus le cas. Là, dans chaque groupe que j'ai 25 personnes, il y a 3 ou 4 qui ont un membre de la famille qui fait de la généalogie. Alors ça, c'est une autre chose qui va en parallèle avec la nouvelle histoire culturelle. Mais je veux passer aux critiques qui ont été faites de l'histoire culturelle. Et ce sont des critiques sur qu'est-ce qu'il en met souvent. Et la première chose, c'est qu'on peut se retrouver avec des études qui voient la culture et l'individu. Et alors, toutes les institutions et organisations, l'État, les syndicats, les partis politiques, les associations culturelles ou sportives ou féminines, ils peuvent perdre leur rôle de d'acteur dans l'histoire. Deuxièmement, on peut se retrouver à supposer une homogénéité de la culture d'un peuple à un moment donné, qui n'est pas justifiée. Bien sûr, ça c'est une erreur de base de tout regard sur l'histoire. Nos étudiants sans arrêt supposent que le 19e siècle, les femmes étaient comme ça. Et c'était tous comme ça parce que c'était l'époque qui voulait. Tandis qu'en fait, je travaillais juste avant la Première Guerre mondiale, le pourcentage des femmes mariées qui travaillaient en Angleterre, c'est de 5% dans certaines villes, et de 30% dans d'autres villes de taille et d'industrialisation similaire. Juste pour donner une idée, bien sûr, il y a des explications, mais bon, c'est plus compliqué qu'on ne pense. Et même les historiens, c'est Hobsbawm qui disait que le problème avec les historiens, c'est qu'il y a le détail et la complexité de leur période, et avant ça, il y avait la société traditionnelle. Puisqu'on n'y connaît rien, on suppose que voilà, c'est du traditionnel, c'est comme ça. La troisième faiblesse ou critique qui a été faite, c'est qu'il y a des questions qui disparaissent. C'est-à-dire que les grandes questions du développement, le grand débat des années 60 entre historiens marxistes sur la transition entre féodalisme et capitalisme, un haut niveau de théorisation, on ne les trouve plus. On ne les trouve plus, en partie parce que dans certaines thèses aujourd'hui, en tout cas dans mon domaine, il y a le paragraphe obligatoire où on explique pourquoi on n'est pas marxiste. Même des gens qui n'avaient pas spécialement à dire quoi que ce soit sur Marx ou le marxisme, ils mettent le paragraphe pour dire pourquoi ils sont pas marxistes. J'exagère un peu, je l'ai vu 3 fois, mais quand même, ça c'est 3 fois sur cette thèse. Voilà, et toute dernière, mais ça, Odette en a parlé aussi, c'est qu'on peut exagérer la capacité explicative de la culture. Je reviens un instant sur celui avant, les questions d'évolution historique large. Par exemple, quel est l'historien universitaire aujourd'hui qui travaille sur une mise en parallèle de l'industrialisation et les transformations sociales en Chine aujourd'hui ? En comparaison avec l'Europe du 19e siècle. C'est le genre de grande question que le matérialisme historique pouvait poser, qui est moins privilégié aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Qu'est-ce que ça nous donne ? Je saute un petit peu. Ah oui, non, mais d'abord, je voulais vous le dire. Aujourd'hui, en France, 21 thèses en préparation en France aujourd'hui contiennent le mot-clé marxisme. 83 ont le mot Freud, 24 le mot Goffman et 81 le mot féminisme, pour la petite anecdote. Donc, peuvent exagérer l'explication, le pouvoir explicatif de la culture. Et là, on voit un exemple peut-être plus politique où les décisions politiques en Irlande du Nord de mettre dans la loi un respect similaire à la culture irlando-catholique et la culture unioniste donne des situations un peu compliquées, donc notamment par rapport à la langue. Je vais sauter un petit peu. Oui, et alors, donc, qu'est-ce que ça donne, donc, la situation dans la publication universitaire? Ça donne des idées, des livres extrêmement variés. Donc là, nous avons Breaking Bad, A Cultural History. Donc, c'est une série télévisée, bien sûr. Et là, nous avons A Cultural History of Naples. J'ai fait un petit tour dans la librairie pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme cultural history. Et là, nous avons The Ghost, A Cultural History. Et dans sa petite publicité, il y avait ces trois citations, recommandations. Il y a un livre, A Work of Profound Scholarship, The Definitive Cultural History of an Indefinable Subject, A Erudite, Insightful and Always Entertaining. Mais l'historien qui regarde ça n'est pas trop, trop convaincu. Si vous regardez quelles sont les revues qu'ils ont mis, Country Life, c'est que faire avec votre résidence secondaire à la campagne. Et en Angleterre, où il n'y a vraiment que les riches qui ont ça, tandis qu'en France, les gens, ils ont des résidences secondaires à la campagne qui ne veulent rien, dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Mais en Angleterre, non. The World of Interiors, donc c'est une revue d'ameublement. C'est vraiment les seuls trois qu'ils avaient mis sur la couverture. Alors, disons que parfois, on peut être un petit peu sceptique. Cultural history of a history of boxing in Mexico, masculinity, modernity and nationalism. La boxe et la masculinité et la modernité. A cultural and social history of modern football. The new cultural history of Peronism. Donc peut-être on est un petit peu surpris là, parce que le peronisme, donc un mouvement politique en Argentine, extrêmement influent au milieu du XXe siècle. Le pouvoir et l'identité. C'est une approche très intéressante, parce que c'est vrai que c'était une idéologie qui donnait lieu à une identification personnelle extrêmement forte. Un petit peu comme on pourrait faire une histoire des communistes d'une ville en France et qu'est-ce que ça faisait l'identité communiste. Tout ceci, j'ai vu donc à la grande librairie à Washington, au Congrès des historiens américains. Boxing and the Battle for Black Manhood, 1880 to 1915, donc fin du 19e. Mon préféré, le péché dans les années 60, les catholiques et la confession. Donc le sacrement de la confession. Donc j'ai vécu comme catholique dans les années 60, donc ça m'intéresse beaucoup. Et enfin, parfois extrêmement ambitieux, l'identité américaine. Donc sur une longue période. Disons que c'est un côté, on le met à toutes les sauces, et bien sûr toutes les sauces veut dire aujourd'hui aussi l'internet. Et donc là, si vous allez voir sur YouTube, là j'en ai trouvé deux vidéos sur YouTube. Le premier, à quoi ressemblerait une histoire culturelle de la voiture? Et l'autre donc, l'histoire culturelle du jeu d'échecs. Donc, tout cela, YouTube, c'est un élément que je n'ai pas trop étudié, mais ça intéresserait d'étudier aussi l'histoire sur Facebook. Qu'est-ce que c'est l'histoire sur Facebook? Comment les gens font les débats historiques sur Facebook? Pour en venir à la nouvelle génération, parce que je me sens un peu vieux, donc j'ai voulu regarder où on était les thèses en préparation en France. Donc là, pour les thèses en préparation en France, aujourd'hui, donc on va dire, sur 10 600 thèses, voilà les mots-clés, 10 600 thèses en préparation contiennent le mot-clé histoire. Et là-dedans, nous avons ce nombre, 35 d'histoires militaires. Fascinant, parce que dans les librairies, l'histoire militaire, c'est la moitié de la section histoire. Hein. 4 histoires diplomatiques. 75 histoire politique, 31 histoire économique, 202 histoire sociale, 5 histoire des mentalités, hein, c'est en perte de vitesse. Hein. 1589 histoire de l'art. Et où est-ce que j'ai trouvé? Oh oui, 522, histoire culturelle. Je pensais l'avoir oublié. Là. Oui, 522. Donc, vous voyez qu'il est mieux placé que toutes les grandes, mais moins bien placé par des choses qui sont parfois peut-être accessibles à des... Parce que c'est des jeunes qui commencent une thèse. Et l'histoire culturelle, c'est quand même... Il faut d'abord qu'ils apprennent ce que c'est. L'histoire de l'art, c'est peut-être rassurant pour se poser là-dedans. En Angleterre, donc... alors, ici, c'est différent parce que c'est les thèses soutenues. Il n'y a pas les mêmes types de données. C'est les thèses soutenues sur, avec le mot-clé « history », 24 000. Et là-dedans, donc, 408 histoires culturelles, 1092 histoires sociales. Donc, il a bien avancé là. Et il y a une raison pour laquelle je les ai mis en couleurs différentes. Ah oui, voilà, merci. En rouge, les thèmes beaucoup plus populaires en Grande-Bretagne. Political, economic and social. Voilà. En bleu, c'est beaucoup plus populaire en France. Et histoire culturelle, plus que deux fois plus populaire en France. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, c'est des grands nombres. Je pense que ça donne quelque chose. Là, donc, nous avons une série qui est sortie tout récemment sur qu'est-ce que l'histoire. Donc, il y a What is cultural history? What is sexual history? Intellectual history? History of the book? History of knowledge? Donc, nous avons une explosion, quelque part, de type d'histoire. Et c'est tout ce que je voulais dire sur l'histoire culturelle. Et je vais juste prendre deux minutes pour parler, donc je vais faire finir mes diapos, pour parler de quelle est la différence que ça fait pour nous, pour moi. Et c'est l'idée d'utiliser des approches d'histoire culturelle et d'anthropologie sur des chansons, et notamment la description épaisse. Et je vais vous parler d'une seule chanson. Et alors, si on prend une chanson d'il y a un siècle, il faut d'abord noter trois faits sur la consommation de la voix dans le music hall il y a un siècle. Premièrement, il n'y a pas de microphone sur la scène, avant au moins le milieu des années 20. Mais les théâtres de variété, en particulier les plus récents, peuvent accueillir 2 ou 3 000 personnes. C'est-à-dire que vous n'avez pas de micro, vous avez 3 000 personnes. Cela signifie que les voix intimes ne peuvent pas être utilisées. La projection est essentielle. Nombreux artistes utilisent un mélange de récitation et de chant. Deuxième fait, la voix de la vedette est une denrée beaucoup plus rare qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous payez pour aller voir une vedette qui vous plaît beaucoup, vous l'avez entendue 1000 fois. Sur disque, sur la radio, etc. À l'époque, c'est absolument pas le cas. Ils connaissent bien la chanson parce qu'ils ont la musique à la maison. Il y a 3 millions de pianos dans le pays, en Angleterre. Un pour chaque 15 habitants, bébé compris. Donc il y a du piano et de la musique partout, mais la voix, non. Le gramophone, c'est marginal. Un grand tube de gramophone en 1915, c'est 30 000. Et dans le spectacle de Noël, 60 000 personnes écoutent un tube tous les soirs. Un tube donné tous les soirs. Donc, le gramophone, c'est complètement marginal. Cela influe l'artiste sur comment il utilise sa voix. Aujourd'hui, si nous allons voir, en tout cas des gens de ma génération, si nous allons voir notre chanteur préféré, nous ne voulons pas qu'il chante exactement comme sur le disque. Non, il faut qu'il fasse une version un peu différente. Ce n'était pas le cas à l'époque. La vedette chantait ses tubes tous les soirs, 3 fois par soir, dans 3 théâtres, de la même façon pendant 30 ans. Et enfin, la centralité du chant collectif doit être soulignée, puisqu'il y a peu de volume et pas de micro. Tout le monde doit chanter. Si seulement la moitié chante, on risque de perdre son travail. Vraiment.
Dans la salle, les gens chantaient.
Tout le monde doit chanter le refrain. Oui. Mais vraiment, tout le monde, si la moitié chante, le manager est en train de dire, bon, finalement, ne reviens pas, ne revenez pas la semaine prochaine. Quoi. Et l'artiste, donc, propose une position, un fantasme, une émotion, qu'il invite l'ensemble du public à projeter ensemble. Comme l'a souligné Philippe Tagg, chanter à l'unisson a une signification sociale et constitue une icône plutôt évidente des individus partageant, soi-disant ou réellement, une cause commune ou une identité ou un ensemble de valeurs et de croyances. Donc tout ça, c'est le contexte, et ça, c'est ce qu'on a appelé la description épaisse, c'est-à-dire que ne pas simplement dire, bon, voilà, c'est une chanson qui se chantait à l'époque, et donc regardons la musique et les paroles, mais qu'est-ce que ça voulait dire chanter en public à l'époque? Et bon, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, analyse plus ou moins sociologique des publics ouvriers de l'époque. Alors je vais vous jouer une chanson, et en parler 2 minutes, et ça suffit largement. Alors il s'appelle Lloyd George's Beer. Lloyd George est premier ministre à l'époque, donc c'est la bière de Lloyd George. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, puisqu'ils avaient très peur, le gouvernement, qu'il y avait trop d'alcoolisme, et ça risquait de perdre la guerre, ils avaient réduit le pourcentage d'alcool dans la bière. Mais pas dans le cognac pour les élites, on se doute. Et c'est une chanson là-dessus. To Ernie Main.
We shall win the war. We shall win the war. As I said before, we shall win the war. The Kaiser seems a grip of fury. Now we are making it in every brewery. Have you read of it? See what's end of it? In the mirror and the mile, it's the substitute and the substitute, and it's known as government style or otherwise. Lord George is the
Alors, c'est Ernie Main, donc il chante dans une. Déjà, il a un nom de scène, Ernie Main, qui l'identifie comme un gars de la classe ouvrière. Il chante dans un accent de la classe ouvrière, se présentant comme l'un des gars, légèrement désaccordé parfois. Sa voix pourrait donner l'impression. J'ai demandé à Jean qu'est-ce que ça lui donnait l'impression de quoi. On m'a dit oh, un oncle préféré, un peu rude sur les bords, mais avec du sens commun. Il a l'air d'avoir bu. Mais cela peut être projeté comme une caractéristique positive, un homme qui sait boire, un homme qui aime boire, surtout à l'époque. Sa voix est celle d'un civil de la classe ouvrière, sardonique, un mec ordinaire qui accepte le besoin de gagner la guerre, mais qui ne veut pas des restrictions imposées, ils le sont uniquement aux gens de sa classe. La nomination de Lloyd George, Premier ministre, comme personnellement responsable, permet à la chanson d'exprimer une certaine amertume contre le Premier ministre, mais sur un sujet qui ne menace pas sérieusement l'idéologie patriotique. C'était l'impression que ça me donnait sur qu'est-ce que ça change et cette vision de la culture, des représentations, des pratiques culturelles sur mon domaine à moi. Et je vais finir là-dessus. Merci beaucoup. Il y a une chaise pour toi aussi. Viens te joindre à moi.
Juste. je pensais tout à l'heure, tu disais en librairie. Alors, je ne sais pas, tu parlais du Royaume-Uni où il y avait plus de choses sur les militaires. Ah. Moi, j'ai l'impression qu'en France, par exemple, ça, ce qui a beaucoup plu, et moi, je l'avais identifié comme histoire culturelle, je me trompe peut-être, mais